Bonjour Stéphane Gatignon.
Bonjour.
Jean-Louis Borloo a remis hier matin son rapport sur les banlieues au Premier ministre. 19 programmes qui se déclinent en de nombreuses mesures. Il s'agit pour l'ancien ministre de la Ville de faire revenir la République dans les quartiers. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire déjà que la République a abandonné les quartiers ?
Disons que je crois qu'aujourd'hui, une incompréhension entre le pouvoir et les pouvoirs successifs, hein, c'est pas propre au gouvernement actuel, mais depuis quand même quelques années, voire une bonne décennie, voire un peu plus, il y a une forme de rupture et une incompréhension, je pense, surtout de ce qui se passe, des dynamiques collectives, négatives ou positives, enfin de tout un tas de choses, de ce qui se passe aujourd'hui en banlieue. Il faut savoir que la banlieue des territoires, Sevran par exemple, c'est une ville très jeune, 25% de la population à moins de 15 ans, c'est des villes cosmopolites. Ça veut dire que nous, on a 70 nationalités, le monde entier a rendez-vous chez nous. Mmh. C'est un peu du RFI local, quoi. voilà. Et comprendre ça. Et en plus, la banlieue a beaucoup évolué, y compris les jeunes ont une vision assez libérale de la société. Voilà. Et en même temps, il y a des solidarités très fortes qui sont à la fois intracommunautaires, mais aussi entre socialement dans les quartiers. Il y a des identités de quartiers, de communes très fortes. Les gens sont très attachés au territoire. Et donc tout ça crée un monde qui aujourd'hui vit quand même beaucoup en parallèle d'un autre monde qui est celui des centres-villes, quoi, et de Paris. Moi, quand je fais mes 15 kilomètres entre Sevran et Paris, j'ai l'impression d'avoir pris l'avion et d'être à 3, 4, 5 heures de Paris.
Donc, pour qu'on comprenne bien, Stéphane Gatignon, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à démissionner?
Moi, déjà, ça fait 17 ans que...
Oui, mais enfin, il y avait une lassitude, un ras-le-bol, une exaspération.
Ce qui m'a vraiment poussé, c'est le côté Don Quichotte contre l'État. J'en veux beaucoup, quand même, au fond, au service de l'État, sur deux, trois choses simples. Hein. Ça a été l'histoire de la fameuse histoire qu'on a eue avec la mosquée Daesh à Sevran, où on a travaillé avec les services, etc. C'est resté ouvert pour des questions de sécurité. Il fallait que les services aient de l'info sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'est fini en jus de boudin un peu avec de la Villardière, qui est un homme de télévision particulier, et ensuite le préfet le directeur de cabinet du préfet qui dit mais on n'a jamais discuté de ça avec le maire. Alors que on avait justement discuté de tout ça avec les services préfectoraux, les services de police, et fait ce travail-là. Donc ça a été un premier élément important, parce que je pense que dans le contexte qu'on avait, lâcher comme ça un élu, et que ce soit moi ou un autre, c'est pas la question. Mais il y a un problème. Ça montre un vrai problème de crise, je pense, totalement institutionnelle, démocratique en France. Et deuxième chose, c'est le côté Don Quichotte contre les services de l'État au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort des nouveaux quartiers. On a la chance d'avoir deux gares du Grand Paris. On a des projets extrêmement développés à Sevran. J'ai deux énormes projets. Un qui est un nouveau quartier où on se bat pour avoir une, entre guillemets, c'est un peu à tarte à la crème, mais une mixité de typologie de logement, avec du logement social, du logement intermédiaire, de la copropriété, mais aussi des résidences étudiantes, de jeunes, d'anciens et tout. Et aujourd'hui, on m'empêche. L'État, alors que y a les financements sont là, hein, qui sont pas d'État d'ailleurs, bloque la deuxième résidence étudiante au prétexte qu'il faut qu'on fasse plus de logements sociaux et que voilà pourquoi on veut changer les populations. Enfin, changer les populations, non, mais accueillir des jeunes et des étudiants alors qu'on estime qu'il y en a pas dans notre secteur. Ça, c'est assez terrible.
Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans le rapport Borloo, mais il y en a deux sur lesquelles lui-même il insiste depuis hier, parce qu'il a répondu déjà à plusieurs interviews. D'une part, le développement massif de l'alternance avec des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas, ce qui est le cas d'ailleurs pour un certain nombre aujourd'hui, leurs obligations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de relancer l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, dont il dit que la bureaucratie a pris le pas sur la dynamique de projet. Est-ce que ça, ce sont les deux points clés?
Et c'est exactement ce que je viens de dire précédemment par rapport à l'État, au service de l'État et à cette bureaucratie qui bloque les évolutions et qui est quand même dans une phase où l'idée c'est de laisser les gens les plus fragiles avec les gens les plus fragiles, c'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle l'apartheid un peu social, ce qui a été déjà dit, mais en France on structure la ségrégation sociale, spatiale et territoriale, voilà, c'est structuré, c'est une volonté d'État, pour moi aujourd'hui c'est une volonté d'État, tant qu'on revient pas là-dessus, il y a un vrai problème. Deux, il demande d'appliquer la loi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on devrait avoir 250 000 dans la loi. En respectant la loi, il devrait y avoir 250 000 personnes en formation avec les entreprises en alternance. Il propose qu'il y en ait 100 000 qui viennent des quartiers sur ces 250 000, en appliquant simplement la loi. Donc on est dans dans les choses normales, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Et ensuite, l'ANRU, il l'a dit, et c'est vrai, l'ANRU, c'est bureaucratisé. Et aujourd'hui, l'ANRU dépense de l'argent, mais c'est des études sur études sur études, quoi. Et les choses bougent plus depuis quelques années. Donc, c'est un vrai problème. Mais l'enjeu du plan Borloo, c'est la question de la mobilisation de la société. C'est-à-dire qu'il aborde énormément de points. Je prends juste un point pour nous qui est très important. La question de la petite enfance.
Ouais.
Qu'on aborde peu depuis le début, mais qui est quelque chose d'important. Comment aujourd'hui, avec la CAF, on mobilise différemment pour que dans des villes comme Sevran, dans nos territoires, on fasse des lieux d'accueil de la petite enfance.
Il veut favoriser la scolarisation dès 2 ans. Hein.
Oui, en investissement et en fonctionnement. Parce que comment les gens peuvent avoir le retour à l'emploi si on n'a pas la question de cette garde des gamins? Et comment on traite la question, y compris du rapport homme-femme dans nos quartiers et dans nos villes? On sait que c'est une question s'il n'y a pas des lieux pour accueillir les enfants. Ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, absolument fondamentales. Et là, c'est vraiment comment travaille la CAF aujourd'hui. Comment on répartit l'argent différemment.
La CAF, c'est la Caisse d'allocation familiale.
Oui, excusez-moi.
Non, mais je précise. Deux points qui sont sans doute plus originaux, puisque le reste, ce sont des mesures, finalement, on pourrait dire, de bon sens. La création d'une académie des leaders qui serait, alors je sais pas comment l'appeler, mais certains ont déjà dit une sorte d'ENA des banlieues. Et d'autre part, la création d'une cour d'équité territoriale qui serait chargée de vérifier la mise en œuvre du rééquilibrage des politiques publiques. Est-ce que ce sont deux bonnes idées?
Oui, je pense que on a un vrai problème avec notamment avec les jeunes, les corps intermédiaires qui sortent toujours, enfin qui sont aujourd'hui en banlieue. Il y a eu, alors là, on paye 40 ans aussi d'action politique, c'est-à-dire quand même beaucoup ont bloqué l'accès à la politique de tout un tas de gens de banlieue, oui. etc. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu dans les partis politiques, un peu partout.
Il y a eu des programmes, par exemple, avec Sciences Po, notamment, ça s'est fait.
Il y a eu des choses, alors ça, avec Sciences Po, mais déjà dans le monde politique, il y a eu ce blocage-là. Oui. On n'a pas voulu de parti de masse en France, de choses vraiment démocratiques, il n'y a pas de parti démocrate, etc. Donc, il n'y a pas eu l'accès. Ce qui est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens de banlieue ont peu accès à la fois dans les boulots de médias et tout ça, mais aussi en politique. Oui. Ce qui, à mon avis, est un vrai problème. Et donc, l'idée, c'est de sortir un peu pour avoir dans les hautes administrations, dans un peu partout demain, des jeunes qui viennent, enfin des jeunes qui seront moins jeunes après, mais qui viennent de ces quartiers et qui fassent que la France et que son administration, etc., représentent ce qu'est la réalité. C'est quand même 6 millions de personnes aujourd'hui qui vivent dans les territoires périphériques.
Et la Cour d'équité territoriale?
Alors, j'avoue que il faudrait, moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais pas si simple à mettre en place, quoi. Et puis, est-ce que tout le monde jouera le jeu?
Quel pouvoir?
Et quel pouvoir, notamment dans les discussions, j'ai eu déjà cette discussion longue avec avec Jean-Louis Borloo. Comment faire pour que, quand il y a des discussions budgétaires, il y a réellement des rééquilibres qui se fassent au profit des villes de banlieue et non pas l'inverse, puisqu'on a un souci historique, c'est que à l'Assemblée nationale, il y a très peu de maires de banlieue et très peu d'élus locaux de banlieue. Et à chaque fois, depuis des années qu'il y a eu des décisions à prendre, elles sont toujours défavorables aux villes de banlieue.
Il nous reste une petite minute. Jean-Louis Borloo dit, je le cite, les programmes peuvent démarrer tout de suite et sont parfaitement réalisables très rapidement. C'est en principe fin mai que le président de la République devrait faire connaître son plan banlieue. Est-ce que, si toutes les mesures que propose Jean-Louis Borloo étaient mises en œuvre, les problèmes de la banlieue seraient réglés?
Je dis pas que tous les problèmes seraient réglés. Il y a aussi des choses politiques fortes. On a parlé de la bureaucratie, etc. Ça, c'est des choix politiques qui sont à faire. Mais je pense qu'une dynamique serait recréée et un certain lien de confiance, notamment sur les cadres intermédiaires qui font que ça n'explose pas, qui font qu'il y a les matchs de foot toutes les semaines en Seine-Saint-Denis, que les clubs, soit les associations, etc. Ça redonnerait confiance. Et on pourrait poursuivre et peut-être voir une issue au moins à tout ça.
Merci Stéphane Gatignan. Bonne
Merci
journée.
À vous.